Je vais vous lire le texte sur lequel portera la prédication dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, les versets 31 à 36. Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Vous rendra libre. Ils lui répliquèrent, « Mais nous sommes la descendance d'Abraham et jamais personne ne nous a réduits à la servitude. Comment peux-tu prétendre que nous allons devenir des hommes libres ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, celui qui commet le péché est esclave du péché. » Alors, nous allons chanter le cantique 258, les strophes 1, 2 et 3. Ta parole, Seigneur, nous l'avons lue et entendue 100 fois, 1000 fois. Et si je m'écoutais, je croirais que je n'ai plus rien à apprendre, que je n'ai plus besoin de toi, que je me contenterai de ce que je crois savoir pour m'éclairer à ta lumière. Mais je te dis, viens, j'ai besoin de ta lumière. J'ai besoin de ton intelligence. Viens renouveler, Seigneur, mon écoute de la parole. Et la lecture de la Bible me nourrit chaque jour. Fais que cette nourriture soit chaque jour différente, selon ce dont j'ai besoin. Amen. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous avons donc l'impression que ce texte nous parle de liberté. Il serait alors un des rares textes évangéliques à en parler. Mais ce n'est pas si simple. La traduction plus exacte serait de dire « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. » Les Juifs qui l'écoutaient répliquèrent aussitôt « Mais nous sommes les fils d'Abraham et nous sommes donc des hommes libres. » Appartenance à un peuple contre obéissance à une parole. Voilà l'un des malentendus soulevés par cette rencontre qui oppose fondamentalement Jésus aux Juifs, mais qui oppose encore à l'intérieur des religions les uns aux autres. Et ces Juifs, ce ne sont pas n'importe lesquels, puisqu'il s'agit de ceux qui avaient cru en Jésus. Mais cela n'empêche pas des incompréhensions. En fait, les Juifs parlent de liberté et Jésus de libération, ce qui ne correspond pas tout à fait à la même idée. En 1945, à la libération, justement, nous étions libérés de l'occupation allemande, mais nous n'étions pas libres. La libération consiste à mettre fin à une oppression, à une servitude, et la liberté consiste à pouvoir agir suivant ses propres choix, à n'être soumis à aucune autorité extérieure. Le Nouveau Testament, ou plutôt les Évangiles, parlent très peu de liberté, sauf l'apôtre Paul, mais toujours de manière paradoxale. Par exemple, lorsqu'il écrit « Libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous ». La liberté pour Paul, et aussi ensuite pour Luther, consiste à être au service des autres. Comme d'ailleurs Paul l'écrit très clairement dans sa lettre aux Galates, « Vous, frères, c'est à la liberté que vous avez été appelés, seulement que cette liberté ne donne aucune prise à la chair. Par l'amour, mettez-vous au service les uns des autres. » Alors par contre, les écrits bibliques parlent très souvent de libération, à commencer par celle de l'Égypte, qui est l'acte fondateur du peuple d'Israël et, comme vous savez, le commencement de la loi. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai libéré du pays d'Égypte. Israël existe parce qu'il est libéré et le Dieu d'Israël existe parce qu'il est libérateur. On est libéré de quelque chose, d'une occupation étrangère, ou d'un esclavage, ou d'une mauvaise habitude, du tabac, de la drogue, de l'alcool. On est libéré du diable, et ici, comme nous allons le voir, du péché. Alors c'est justement là que les Juifs n'ont pas compris Jésus, bien qu'ils croyaient en lui. Alors, Jésus dit que pour être libéré et être son disciple, il faut demeurer dans sa parole. Non pas écouter, mais demeurer. Il y a dans ce mot, comme dans le verbe grec « meno », l'idée d'habiter. La demeure, c'est la maison. L'idée aussi d'y être dans la durée. Il faut habiter la parole, que celle-ci soit un lieu pour vivre, une demeure, un endroit où l'on s'est installé, où l'on s'y trouve bien, où l'on se sent protégé. En fait, les Juifs qui écoutaient Jésus et qui avaient cru en lui ont fini par se disputer très vivement avec lui dans la suite de notre texte que je ne vous ai pas lu, parce que justement, il ne suffit pas de croire en Jésus. Et qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, croire en Jésus? Il faut habiter sa parole, vivre avec elle tous les jours, la retrouver fidèlement chaque soir et chaque matin, y avoir repris des forces la nuit pour décider à nouveau de demeurer en elle le long de la journée qui s'annonce. Et la parole dont parle Jésus ici, si nous suivons le texte grec, c'est justement le logos, le même que celui du prologue de Jean, et qui, d'après le prologue, est au commencement de l'humanité. C'est bien plus que la parole. C'est la face de Dieu tournée vers les hommes. Elle était tournée vers Dieu, dit le prologue. Elle était Dieu lui-même. Et donc Dieu a pu exister parce que les humains se parlaient, échangeaient leurs idées, leurs convictions, leurs sentiments, leurs amours et leurs haines. Dieu est arrivé dans une parole, disait le pasteur Louis Simon, qui est un petit peu un de mes maîtres. Dieu surgit de la parole. Et pas n'importe lequel, puisque le logos, c'est aussi la sagesse, la raison, le bon ordre du monde. Bref, la parole de Dieu. On pourrait traduire le texte que je vous ai lu, « Si vous demeurez dans ma sagesse ». Donc, cette parole libère ceux qui l'habitent. Mais de quelle libération s'agit-il ? Jésus le précise lui-même dans le dialogue, un peu plus loin. « Celui qui commet le péché est esclave du péché. » Il s'agit donc d'être libéré du péché. Ah, le péché ! Il traverse toute la Bible, comme vous savez, toute la religion chrétienne, et nous confessons notre statut de pécheur chaque dimanche pour nous faire pardonner. Et puis, le dimanche suivant, il faut recommencer. Parce que l'humain est insatisfait de lui-même, toujours insatisfait. Il est devant une faillite morale, une faillite de lui-même, de son entourage et aussi de l'humanité entière, comme nous le voyons bien aujourd'hui. Et ceci est une de ses principales angoisses. Et l'apôtre Paul lui-même, lui qui se pose souvent en exemple, ou dans sa lettre aux Romains, vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir, puisque le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je veux pas, je le fais. C'est l'apôtre Paul qui écrit ça. Donc, notre nature humaine est ainsi faite que nous ne parvenons pas à nous défaire de nos prétentions, de nos égoïsmes, de nos vanités, de nos orgueils. Paul et après lui l'Église ont dit que c'est la faute du péché originel. D'accord, mais ça ne résout rien. Comment en sortir ? Comment se libérer de cet esclavage ? Et Paul écrit « Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui appartient à la mort ?» Alors, dans ce texte, Jésus donne une solution. La libération par la pratique de sa parole. Hein ? Si vous demeurez dans ma parole, je vous l'ai lu tout à l'heure. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement libre. Donc, la libération par la pratique de cette parole. Cette parole qui invite à table les pauvres, les estropiés, les boiteux, tous ceux qui ne peuvent pas rendre parce qu'ils n'ont rien. Cette parole du sermon sur la montagne qui invite à aimer ses ennemis et à prier pour eux. Cette parole qui recommande de se faire tout petit, comme un enfant, de se considérer comme le dernier, comme celui qui doit servir et non pas celui qui doit être servi. Cette parole qui s'occupe du blessé sur la route et l'emmène à l'autel sur sa monture. Cette parole de Pierre devant un infirme qui se tenait à la porte du temple, de l'or et de l'argent. Je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Voilà cette parole de vérité qui nous libère de nos insatisfactions, parce qu'elle nous fait sortir de nous-mêmes, de nos petits problèmes, de nos petits péchés. Qu'est-ce que le péché dans la tradition hébraïque ? Eh bien, c'est le fait de ne pas suivre la loi de Dieu qui explique comment considérer son prochain, comment être en bonne relation avec son entourage. Et à la fin du décalogue, Deutéronome écrit « Le Seigneur nous a ordonné de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre le Seigneur notre Dieu pour que nous soyons heureux tous les jours et qu'il nous garde vivants comme nous le sommes aujourd'hui. » Autrement dit, si le Seigneur Dieu prescrit ses lois, ce n'est pas pour son propre intérêt, mais pour le nôtre, pour que nous soyons heureux, libérés, dirait l'évangéliste Jean. Le seul intérêt de Dieu, c'est le bonheur de l'humanité. Et c'est pourquoi il prescrit sa loi. Et c'est pourquoi Jésus dit de demeurer dans sa parole, dans sa sagesse. Donc Jésus est bien dans la continuité de cette loi qu'il rend à la fois plus exigeante et moins tatillonne. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi », mais moi je vous dis « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». Donc nous sommes libérés de nous-mêmes et de nos péchés si nous habitons cette parole de Dieu révélée par Jésus qui nous porte. Voilà la vérité. Voilà ce dont parle Jésus quand il dit « Vous connaîtrez la vérité ». Et comme le dit d'ailleurs l'évangéliste Jean un peu plus loin dans la bouche de Jésus, « Si quelqu'un m'aime, il observe ma parole. » Aimer Jésus, c'est mettre en pratique sa parole. Alors, direz-vous, nous n'avons aucune certitude que Jésus ait effectivement prononcé toutes ces paroles. D'ailleurs, elles diffèrent d'un évangile à l'autre, et l'on sait bien qu'elles ont été écrites plusieurs dizaines d'années après la mort de Jésus. Et dans le fond, nous n'avons aucune garantie sur leur authenticité. Ce n'est pas grave, parce que si nous sommes libérés, c'est par la force de cette parole évangélique qui nous est transmise par les Écritures, et pas directement par ce Jésus, disons par ce Jésus historique, que nous ne connaissons pas vraiment et dont nous ne savons pas vraiment ce qu'il a dit. Prenons bien, en fin de compte, que c'est cette parole, cette sagesse qui fait le Christ, parce qu'elle le précède. Elle était au commencement, comme dit le prologue. L'idée que nous nous faisons du Christ procède de cette parole. Et à la limite, cette parole que nous retrouvons dans les évangiles, elle est plus importante que ce Jésus lui-même qui, sur le plan historique, est perdu dans l'épaisseur des siècles. Et voici comment se termine le prologue. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé. Et comment nous l'a-t-il dévoilé ? Eh bien, justement par cette parole qui est venue jusqu'à nous, hommes et femmes du XXIe siècle, qui a traversé l'histoire et nous libère de nos tourments et de nos péchés. Parce qu'il faut plutôt se pencher sur les tourments des autres, qui sont autrement plus graves que les nôtres. Amen.
Voilà, merci Henri pour ce parcours qui a été très très riche, qui nous a permis de réfléchir un peu sur la parole, la vérité, la liberté, le péché et la sagesse. C'est quand même beaucoup de thèmes de réflexion. Et dans tout ce parcours et dans sa richesse, il y a une parole que j'ai notée vers le milieu de ta prédication. Tu as dit « Dieu veut le bonheur de l'homme », c'est ça hein? Je ne me trompe pas, tu me corriges. Et je trouve que c'est quand même une très très belle parole dans tout ce parcours et qui vient l'éclairer. Merci Henri, dans tous les cas. Et puis, puisqu'on parle de toi, je voudrais dire qu'il y a des livres que tu as écrits qui sont au fond de ce temple. Si vous voulez vous les procurer, n'hésitez absolument pas. Vous savez que la dogmatique est, ou la théologie ou l'exégèse est parfois un peu compliquée à lire. Mais comme disait Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour cela vous viennent aisément. Et dans le cas d'Henri Persoz, les livres sont extrêmement abordables au point de vue de la lecture et tout aussi riches. Donc ça vaut vraiment la peine pour ceux qui voudraient s'initier un petit peu à des lectures d'approche biblique, en particulier d'entrer par cette porte-là qu'Henri nous offre. Voilà, il faut les payer quand même, hein. Alors, j'ai quelques nouvelles, quelques annonces. Ce soir, nous sommes le premier dimanche du mois, donc ce soir, il y a le concert, hein, à 17h30. Et comme je dis souvent, si vous voulez être bien placé, c'est-à-dire à ma droite, eh bien, il vous faut arriver un petit peu à l'avance, et vers 17h15 à peu près. Tant que j'y pense aussi tout de suite, je veux dire que dans notre bulletin paroissial, il y a deux petites erreurs. À l'Assemblée générale de la paroisse, ce n'est pas Mathieu Calam qu'il faudra élire au Conseil presbytéral. Il nous a quittés, il est quelque part du côté d'Angers, je crois, mais c'est Mathieu Faria. Alors, si vous voulez vous en souvenir, vous n'avez qu'à penser à l'abbé Faria, pour ceux qui connaissent un peu Alexandre Dumas. Mais il était présent tout à l'heure. Il était assis là, à côté de Laurent Gagnebin, là, à gauche. Et il est parti parce qu'il est catéchète. Voilà. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il était là au début du culte et qu'il n'est plus là. Donc, il est assez impliqué dans la paroisse au niveau de ses activités et du suivi d'un certain nombre de groupes. Alors, autre petite erreur, le dimanche des Rameaux, Laurent Gagnebin, si présent, viendra présider le culte. Et ce ne sera pas son dernier culte, ce sera son dernier culte au foyer de l'âme. Voilà, dans ce lieu avec les orgues qui viennent accompagner de la méditation. Et je remercie tous les organistes de la paroisse qui viennent jouer le dimanche avec une certaine fidélité. Et aujourd'hui, c'est Nicole qui tenait l'orgue. Et donc, merci à elle d'avoir été présente. Alors, dans les activités de la paroisse, mercredi 7, il y a l'entraide, réunion de l'entraide à 19h30. L'Assemblée générale de l'entraide aura lieu dimanche prochain, le 11 mars. Voilà, donc après le culte. Ne quittez pas le culte trop rapidement. Évitez les jus de fruits et les gâteaux de la sortie, ce qui est une fort sympathique et qui fait partie aussi du culte, parce que la convivialité, je pense que c'est important. Mais on commencera l'Assemblée générale d'entraide tout de suite. Il y aura une élection de Louis Gigon, s'il est toujours d'accord, mais il n'y a pas de raison. Donc il faudra élire. Voilà, je continue un petit peu. Le vendredi 9 à 20h, il y a les JMJ, c'est un groupe, et nous, un groupe de réflexion, nous réfléchissons sur notre Père, et nous serons dans la partie « Ne nous laisse pas dans la tentation, délivre-nous du mal », etc. Donc c'est ce type de problématique que nous allons rencontrer. C'est pas très très simple, mais bon, on a sûrement des choses à dire. Et puis pour la vie de la paroisse, je voulais vous dire que je dois avoir 6 réunions de préparation de baptême cette semaine. Elle est quand même assez sympa, quoi. Alors, ça va de tout pitchoun, tout petit, à des adultes. Voilà, donc c'est quand même extrêmement sympathique. C'est un plaisir que les pasteurs peuvent avoir et que je voulais partager avec vous, évidemment, parce que ça vous concerne, bien sûr. Et puis, donc dimanche prochain, vous aurez. C'est pas moi qui ferai le culte. Hein, je serai présent, évidemment, pour les raisons évidentes. Mais ce sera le pasteur d'antan. Vous avez entendu dimanche dernier qui reviendra le 11 mars. Et je vous invite à venir l'entendre pour des tas de raisons. Le 18 mars aussi, je vous le donne pour mémoire, il y aura l'Assemblée générale de la paroisse. Donc voilà, avec l'élection de Mathieu Faria à la clé. Alors, il y a d'autres annonces.
Moi, j'ai une annonce concernant le recueil des textes des conférences. En fait, la famille Sick, Joël et Brigitte, les ont fabriqués. Il y en a un petit peu au fond du culte, On va, si certaines personnes les ont commandées, certains payés, quelque part ils sont prioritaires. Puis après, il y en a une dizaine de disponibles. Et puis après, on peut recommencer des commandes et Brigitte en refera. Donc voilà, je me tiens à votre disposition, je les remplace. Ils ne sont pas là aujourd'hui, mais c'est eux qui ont fait le travail.
Libérez-vous d'un poids, pour rester un petit peu dans le prolongement de ce qui a été dit. Et je vous invite à participer à ce moment d'offrande. Et pendant ce temps d'offrande, je vous invite à chanter le cantique 195, les strophes 1, 2, 3. C'est toi, Jésus, qu'ils ont chanté.
Nous venons à toi dans la prière, Seigneur. Et c'est une manière de faire place en nous à un autre que nous-mêmes. Nous venons à toi et c'est une manière de libérer notre regard de ce qui l'encombre. Une manière de nous délier du manque de confiance, de la lâcheté et de la colère qui nous retiennent attachés. Là où nous sommes tentés de nous replier sur notre amertume, ouvre-nous à la tendresse qui est en toi. Là où nous nous crispons sur l'attente d'être aimés, emmène-nous vers la générosité qui porte la joie. Là où nous avons peur de manquer, donne-nous de regarder ce manque comme une source de fécondité. Notre prière, Seigneur, c'est aussi une manière d'accompagner les situations douloureuses et de rendre grâce pour les situations heureuses. Nous sommes aujourd'hui devant toi et nous nommons devant toi ceux et celles qui vivent un temps d'éclatement, de remise en question, de deuil ou de maladie. Nous nous réjouissons avec ceux et celles qui reprennent pied et qui ont des envies pour demain. Garde-nous accueillant à ceux et celles qui cherchent leur voie et vivent leur voie autrement que nous. préserve-nous de toute suffisance. Donne-nous plutôt de témoigner de la largesse du regard que tu portes sur chaque être humain. Ce regard que nous accueillons maintenant en te disant « Notre Père, tu es comme un Père parce que tu t'inquiètes de nous et nous considères tous comme des frères, solidaires les uns des autres. Un Père cependant, bien au-delà de nous-mêmes, comme caché dans le ciel. Tu es vraiment saint, c'est-à-dire de l'autre côté de notre humanité. Et en sanctifiant ton eau, nos regards sont tournés vers cette sphère de justice et d'amour dans laquelle tu règnes et dans laquelle tu nous invites. Et nous ne pouvons dire que ton règne vienne que si nous sommes engagés dans la construction d'un monde meilleur. Parce que tu ne peux sauver l'humanité tout seul, tu as besoin des hommes. Et celui qui a compris cela peut dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire dans la cité comme dans notre vie spirituelle. Mais la cité, elle passe d'abord. C'est pas sur le ciel comme sur la terre, c'est sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain, symbole de tout ce qu'il faut pour vivre, mais à nous tous, à tous les habitants de la terre et à tous ceux qui en manquent. Nous sentirons que tu nous pardonnes que si nous pardonnons, nous aussi, aux autres, parce que tu es dans l'autre. La tentation est dans notre nature. Aide-nous à ne pas y succomber en nous libérant de l'esclavage, de l'égoïsme. Parce que tu es l'amour qui règnera au siècle des siècles. Amen. Et nous nous levons pour l'exhortation et la bénédiction de Dieu. Ayez un regard nouveau, dit le Seigneur. Je vous envoie dans le monde auprès de vos frères, auprès de votre prochain, de l'homme blessé sur le bord de la route, de la femme à bout de force et de l'enfant meurtri. Ayez confiance, je vous envoie dans le monde, allez avec la force que je vous donne. Et le Seigneur Dieu nous bénit et nous garde, et il fait de nous des enfants de lumière, et il nous accorde sa grâce et sa paix à jamais. Amen. Tu